Cher Philippe, tu n'es pas n'importe qui. Tu es redoutablement intelligent et redoutablement affûté. Et comme tous les psys, tu te sers de tes connaissances pour échapper à la vérité. Donc chez toi, il y a ce que tu es venu dire, ce que tu es venu ne pas dire, et puis ce que tu es venu ne surtout pas dire.
Comme son psy de En Thérapie, lorsque Bruno Patino se rend à une interview radio, il y a ce qu'il est venu dire, ce qu'il est venu ne pas dire, et il y a ce qu'il est venu ne surtout pas dire. On aime à le taquiner. Le patron d'Arte savoure des audiences télé historiques, 3% de part de marché en août, et une audience numérique en hausse de 400% en 4 ans. Et surtout, une politique expansionniste digne de Napoléon Bonaparte, parti à la conquête des cœurs, des esprits et de l'Europe. Rien que ça, Bruno Patino s'étend sur toutes les plateformes du web, en même temps qu'il récupère un nouveau canal sur la TNT et prétend réinventer la télé. Tous les publics sont à prendre d'assaut. Idem avec les langues disponibles et les copros. Arte déborde de ses frontières historiques. Qui eût cru que l'anti-Netflix fasse à sa manière de l'impérialisme?
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Ce portrait de vous en Napoléon Bonaparte?
Ah non, pas du tout. Mais voilà, vous savez bien, à la limite, le dialogue effectivement entre Frédéric Pierrot et Carole Bouquet, peut-être, oui, mais non. Non, en fait, à la fois vous avez raison, mais c'est pas du tout dans une mécanique expansionniste ou autre, parce qu'en fait, Arte, depuis le début, c'est faire travailler des gens ensemble. Donc on essaye de faire travailler de plus en plus de personnes ensemble, sur de plus en plus de territoires, ça c'est vrai.
Ouais,
mais voyez, c'est pas une conquête, c'est une mise en relation.
On va évidemment disséquer tout cela dans le plus grand détail. En attendant, allongez-vous en thérapie.
Serait-il possible que ces images que vous avez fabriquées à un moment de votre analyse, eh bien que vous les ayez remobilisées pour leur donner une importance démesurée, justement parce que vous en avez besoin ici et maintenant?
Besoin de quoi?
Parce que vous venez de vivre une expérience terrible qui a mis à mal tous vos repères et que vous cherchez une issue à cette crise.
Le succès phénoménal de cette série l'année dernière, réentendre ces extraits Bruno Patino à l'heure où s'ouvre le procès des attentats de novembre 2015, on les entend très, très différemment d'un seul coup.
Oui, mais ça a été en fait le moment assez incroyable dans Thérapie. Parce que en Thérapie, évidemment, quand ça a été écrit, adapté par Éric Toledano et Olivier Nakache en particulier, c'était l'idée de revenir, comme vous le dites, la plupart des héros ou des patients, en tout cas, du docteur Dayan, ont eu à vivre, soit directement, soit indirectement, la journée ou la soirée du 13 novembre et les attentats du 13 novembre, le Bataclan en particulier, mais pas uniquement le Bataclan. Et lorsque ça a été écrit, effectivement, c'était sans doute pour revisiter, donner de la parole et de l'échange autour de ce traumatisme incroyable et terrible qui a été le traumatisme de la population française. Et il a été diffusé en plein traumatisme collectif, en fait, du Covid, du confinement et autres. Et donc, il y a eu cette résonance-là.
Probablement.
En particulier, je pense que ça explique aussi une partie, la qualité, évidemment, je mets en avant la qualité de l'écriture et de la réalisation, mais aussi, sans doute, cette adéquation avec le temps. Et aujourd'hui, effectivement, revenir à nouveau sur ou écouter cette série ou la regarder en écho avec le procès qui s'ouvre.
Vous pourriez la rediffuser, justement, la remettre en ligne, là, en ce moment, qu'on rouvre ses blessures et on rouvre...
Je vous reconnais dans cette question. Vous savez bien que les droits audiovisuels sont tout à fait particuliers dans notre pays, dans leur structure, et qu'en ce moment, les droits de cette série initiée par Arte, les droits numériques, sont sur Disney.
Oui, c'est ça. Donc, nous n'avons pas la possibilité.
Nous ne pourrions pas les présenter sur notre plateforme, mais je vous rassure, on pourra sans doute à l'avenir le refaire, et puis on achève en ce moment le tournage de la saison 2.
Évidemment. Que cela raconte-t-il, ce succès phénoménal, en termes d'usage? Parce qu'évidemment, il y a là comme une sorte de déclic, en tout cas, qui a rendu ce déclic très spectaculaire. Je rappelle que l'intégralité des 35 épisodes avait été mis en ligne avant leur passage à l'antenne, que vous aviez déjà totalisé 7 millions de vues avant même la diffusion, et que le jour de la diffusion, vous avez réuni presque 2 millions de téléspectateurs. Preuve que personne n'a cannibalisé personne. C'est ça la grande leçon qu'on en tire.
Oui, la leçon, c'est que les usages s'ajoutent les uns aux autres, si vous voulez. C'est-à-dire que chacun veut avoir le choix, et peut-être qu'on va revenir sur cette notion de choix qui est très importante, sur la façon dont il souhaite regarder un programme. Mmh. Et donc, vous avez ceux qui veulent le regarder à l'antenne, j'allais dire, en même temps que tout le monde, et puis ceux qui souhaitent le regarder sur une plateforme, et en l'occurrence Arte.tv.
On est d'accord que c'est un changement de logiciel complet, l'idée que 7 millions de personnes aient pu voir des épisodes avant et que ça ne gâche en rien
la diff. Oui, mais pardon de vous dire que ça ne m'a pas surpris. Enfin, vous le savez d'ailleurs, ça fait très longtemps, enfin le pari de la chaîne, le pari qui n'est même plus une chaîne, c'est de se dire on a trois propositions éditoriales, on a une chaîne, une plateforme et des chaînes sociales. Ouais. Et les trois se nourrissent les unes les autres. C'est ça qui est très important. Elles ne se cannibalisent pas, elles se nourrissent. D'abord parce que des populations, chacun a des usages assez différents, et donc pouvoir s'adresser à tous, c'est s'adresser à tous les usages. Et en plus de ça, les usages, j'allais dire, conversent les uns avec les autres, en ce sens où ils développent à la fois l'appétence qu'on peut avoir, la connaissance, et puis la discussion autour d'un programme.
Et d'ailleurs, ensuite, les mêmes épisodes sont arrivés sur YouTube, où ils ont continué à faire des vues et continué.
Évidemment, et ils ont été programmés de façon tout à fait particulière. Ils étaient programmés un par jour, c'est-à-dire le patient du lundi, le lundi, la patiente. Non, c'était la patiente d'ailleurs, le patient du mardi, le mardi, etc., etc.
Arte sur YouTube.
L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême, que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune.
8 millions de vues pour ce petit documentaire mis en ligne par Arte sur YouTube. 8 millions, alors que sur YouTube, vous êtes en concurrence avec des choses qui totalisent des vues par parfois centaines de millions. Arte met une quantité astronomique de programmes sur YouTube. Pendant longtemps, Bruno Patino, on a dit les chaînes coupables de donner en pâture, gratuitement, à Google, qui est la maison mère de YouTube, leurs programmes financés par leurs fonds à eux.
Oui, mais j'ai jamais compris vraiment ce propos.
C'est vrai. Souvenez-vous, oui, hein, il y a quelques années, on disait France Télévisions doit mettre ses programmes sur une plateforme américaine qui se goinfre de pub alors que
Qui se goinfre de pub. En l'occurrence, c'est Arte qui décide s'il y a de la publicité ou pas devant un de ses programmes. Et si jamais il y a de la publicité, une partie de cette publicité est touchée par Arte. En l'occurrence, nous, on met très très peu de publicité. Parce que pourquoi on est sur YouTube ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande plateforme, les grands usages de beaucoup des plus jeunes, et les plus jeunes n'étant pas aussi jeunes que ça d'ailleurs, parce que notre moyenne d'âge sur YouTube, c'est environ 30 ans, donc ça n'est pas que les adolescents ou les préadolescents.
Et
si
un
vous
Français
voulez.
Sur deux utilise YouTube quotidiennement.
Mais bien sûr, donc. Et YouTube est regardé sur le portable, sur l'ordinateur, ce qu'on appelle le desktop, mais aussi de façon croissante sur la télévision, c'est-à-dire c'est devenu l'interface pour la télévision. Et alors là où le nœud du problème est, à mon avis, c'est pas sur le fait de mettre, c'est qu'aujourd'hui, ces grandes plateformes-là, elles ont la main sur le fait d'être découvert. Et ce qui est très très important quand vous êtes une proposition éditoriale comme Arte, c'est que vous faites le pari de la complexité, de la science, vous l'avez montré, des grandes séries documentaires. On a des grandes séries documentaires qui font, pardon de l'expression, un carton sur YouTube. Ah oui. Vous faites Décolonisation, Les routes de l'esclavage ou autre, ou Vietnam de Ken Burns. Tout d'un coup, vous avez tout un public qui le découvre alors qu'il ne sera pas le mardi soir ou un autre soir devant sa télévision à le regarder en linéaire. Et on aurait tort de croire, c'est très très important de le dire, que les gens qui sont sur YouTube ne regardent que des vidéos de chats qui font du skateboard. Ça fait très très longtemps, ou des claquettes, ça fait très longtemps que c'est plus le cas.
Alors, il n'empêche, oui.
Et donc, c'est très important de dire, pour pouvoir être découvert par toute cette population-là, il faut qu'on soit là-bas. Mais, et l'autre question est centrale, c'est une fois que vous êtes sur cette plateforme, je veux dire, quelles sont vos chances d'être découvert ? Est-ce que vous êtes mis à la cave ? Est-ce que vous êtes un peu poussé par l'algorithme ?
Exactement.
Est-ce que vous êtes juste dans la foire à tout, et puis les gens découvrent ou pas ? Et la discussion, me semble-t-il, qu'il faut avoir avec ces plateformes, c'est les conditions, pardonnez-moi le néologisme, de découvrabilité. C'est-à-dire, je suis chez vous, mais comment me mettez-vous en avant, non pas pour faire des scores,
Par exemple,
mais
le plus vous proposeriez d'encarts publicitaires, le mieux vous seriez poussé par l'algorithme ?
C'est possible, ouais. Mais ça n'est pas la seule solution pour être poussé. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille avec YouTube plutôt bien pour la mise en avant, parce que pour eux aussi, sans doute, le fait d'avoir des contenus de qualité, les documentaires, on a parlé, des contenus scientifiques, musicaux ou autres qui échappent, j'allais dire, au tout venant, c'est aussi quelque chose de positif. Alors, pour la plateforme.
Vous rigolez sur les vidéos de chats et de skateboard. Il n'empêche, ça fait partie d'une culture, d'une culture numérique, d'une culture YouTube. Et ceux qui sont sur YouTube depuis longtemps le savent et sont tout à fait habitués à ces codes-là. Je vais vous faire entendre un extrait, ça s'est passé sur une autre plateforme qui s'appelle Twitch. Sur Twitch, on fait une sorte de télévision en direct, chacun depuis chez soi. Jean Castex, Premier ministre, s'est rendu chez Samuel Etienne et ensemble, ils ont fait une revue de presse.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce que vous découvrez ?
Ah ben écoutez, c'est formidable, je connaissais pas, je vous le dis, je l'avoue. On me dit que j'ai un côté, vous savez, un peu vintage, que j'assume totalement, donc je découvre. Mais je vous avoue que je suis un peu stressé, non pas par... le mode d'expression, mais parce que mes filles, elles, sont des habituées et elles m'écoutent ce soir. Je suis pas sûr, vous voyez, je suis pas sûr, par exemple, qu'elles suivent mes conférences de presse. Mais ce soir, elles sont là. Alors, voilà, il faut que je me tienne particulièrement bien.
Voilà, ça c'était le Premier ministre sur Twitch, c'est relativement mal passé. Arte a décidé d'aller sur Twitch, Arte a décidé d'aller sur TikTok, Arte a décidé d'aller sur Snapchat. Il y a deux manières d'arriver sur ces nouvelles plateformes avec leurs nouveaux usages et leurs nouveaux codes. Bruno Patino, ou on cultive le côté vintage, bonjour, je suis moi, je suis une vieille chaîne, prenez-moi telle que je suis, ou on décide d'avancer masqué ou d'adopter...
Non, mais c'est pas masqué, quel intérêt si vous jouez pas le jeu ?
Ouais.
C'est-à-dire si vous n'êtes pas vous-même en train de jouer le jeu. Être vous-même, c'est-à-dire que forcément, vous abordez des thématiques qui sont les vôtres, mais vous jouez les jeux de là où vous êtes.
Oui.
Et c'est une forme de respect aussi. Quand vous rendez chez quelqu'un, vous ne mettez pas vos usages en avant, mais vous respectez la façon dont les gens se comportent.
C'est ça parce que vous avez choisi, par exemple, un type qui s'appelle Pierre Lapin,
mais oui.
Voilà, qui a un grand usage de ces communautés-là pour vous représenter
auprès de ces
communautés.
On fait sur Twitch, on y est depuis un certain temps.
Oui.
Évidemment, Twitch, au départ, ça naît du jeu. Donc, on a fait Jour de Play. Qui était notre façon aussi d'aborder un domaine dans lequel on est présent. Hein. On est sur des jeux vidéo, depuis très longtemps, plutôt indépendant pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, avec souvent quand même des dimensions scientifiques, culturelles ou autres, parce qu'on est avant tout Arte. Et maintenant, on a Laserdisc, donc sur la musique. Et effectivement, on prend... mais moi, c'est formidable d'accueillir au sein d'Arte des gens des différentes communautés. D'accueillir les gens qui sont sur Twitch, d'accueillir les gens qui sont sur YouTube, ou autre. Si vous ne faites pas cette rencontre-là, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous me présentiez comme un petit Napoléon audiovisuel, ce que je suis vraiment pas...
J'ai jamais dit petit, on ne dit jamais petit avant Napoléon.
Non, certes, mais alors, c'est... Non, mais quand même, il faut avoir le sens du ridicule. Non, mais même par rapport à ça, si vous voulez, c'est pas le but. Le but, c'est justement de mettre les gens ensemble. C'est vraiment de bâtir du commun, donc accueillir des gens qui ont une communauté phénoménale et leur dire venez rencontrer Arte et si on se rend compte qu'est-ce que ça donne, c'est ça.
Alors, la Ligue 1, le championnat de foot français diffusé sur Amazon Prime. Écoutez Thierry Henry, champion du monde 98, qui papote sur Amazon Prime après une victoire du RC Lens face à l'AS Monaco.
Si tu vas aller presser, il faut rester en un contre un derrière. Ce que j'aime, c'est que je vois une équipe comme Lens qui est montée l'année dernière qui vient à Monaco pour jouer là, pas là-bas, pour jouer là. Mm-hmm. Un tir au but, bon, Sofiane a eu une petite balle à la fin où il peut faire quelque chose avec, où il rate son contrôle, mais c'est le football qui me parle.
On avait, Bruno Patino, depuis des années, un marqueur. C'était que la spécificité de la télévision, ok, toutes les plateformes peuvent proposer du clip vidéo, du documentaire, de la série, du cinéma, etc. Mais la spécificité de la télé, c'était le sport notamment, c'était les grandes soirées électorales, c'était tous les événements capables de fédérer du public en direct. Et là, boum, le championnat de France est sur Amazon.
Oui, moi je pense que c'est vraiment l'événement audiovisuel en fait de la rentrée, c'est-à-dire que s'il faut un marqueur pour montrer une évolution qui ressemble à une révolution, l'arrivée de la Ligue 1 est celui-là. Et vous avez dit, on disait bon, le linéaire, c'est l'événement. C'est aussi l'habitude, ne l'oublions jamais.
Le linéaire, c'est la chaîne de télévision telle que vous l'avez sur votre
exactement. Télé. Exactement. Et le non-linéaire, donc les plateformes, c'est les choses que vous regardez à la demande, donc c'est plutôt les séries, etc. Ce qui me semble vraiment important, c'est qu'on voyait bien déjà que les plateformes avaient commencé à faire rentrer de la synchronicité, c'est-à-dire de le fait de pouvoir regarder ensemble. Si vous regardez Netflix ou les autres, ils vous proposent cette fonction qu'on appelle partie ou autre, vous pouvez décider via votre ordinateur de regarder un programme Netflix en même temps que quelqu'un d'autre. Donc un canapé virtuel, si vous voulez. Mais le canapé, il était choisi, si j'ose dire. C'est entre amis, voilà. Et rentrer dans le sport, c'est évidemment faire deux choses pour ces plateformes-là. C'est d'abord d'avoir quelque chose de récurrent qui structure une politique d'abonnés. Donc en ça, c'est pas très différent de Canal+. Je veux avoir des abonnés de façon récurrente. Le sport, c'est addictif. Ça revient tout le temps. Donc ça procure un motif d'abonnement qui est très important. Ça, c'est la raison économique pour laquelle ils l'ont fait. Mais évidemment, éditorialement, ça provoque un changement assez majeur qui est de dire, à un moment donné, tout le monde en même temps, c'est-à-dire la société, le grand événement peut battre au rythme de quelque chose qui se passe sur les plateformes. Ouais, et là, évidemment, c'est un changement de paradigme et de modèle.
Et jusqu'à présent, ça vous sert plutôt comme une sorte de grande bibliothèque de stock, on appelle ça des programmes de stock, du
documentaire. Au secours, non, pas du tout.
Ah bah alors voilà, racontez-nous.
C'est-à-dire, non, c'est vrai.
Mais est-ce qu'un jour vous ferez du direct, du live sur arte.tv?
Mais d'abord on en fait.
Mais alors racontez-nous.
Alors d'abord on fait deux choses.
J'aime bien la réponse de l'invité qui commence par « au secours ».
Non, non, mais parce qu'on essaye d'être plus que ça, pour être très franc. C'est-à-dire que arte.tv, quand on est passé du rattrapage à la plateforme, il y a tout effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire il y a des milliers d'heures de programmes, etc. Mais il y a deux choses en plus. D'abord il y a du direct, beaucoup sur Arte Concert. Il y a beaucoup de directs qui se font. Alors pour nous, on est dans le domaine de la culture, évidemment. On ne fait pas un match de foot et on n'est pas prêt de le faire. Mais en revanche, l'opéra, le théâtre, etc., etc., en direct sur Arte Concert, oui. Et l'autre chose que l'on fait et qui est très important, parce que pour moi, Arte.tv a une ligne éditoriale qui est celle d'Arte, c'est qu'on contextualise. C'est-à-dire que bon, les talibans prennent Kaboul ou Kaboul tombe, tout d'un coup, on remet en avant dans le visuel même de la plateforme, les grands documentaires sur l'Afghanistan, le prix Albert Londres sur les talibans, et donc on contextualise, j'allais dire, la home page, c'est-à-dire la page d'accueil de cette plateforme avec l'actualité. On a un décès dans l'univers culturel, c'est pareil. Donc de plus en plus, on éditorialise la plateforme en la contextualisant. Donc il y a du direct et il y a de la contextualisation. Et c'est un chemin qui est long, qu'il faut faire étape par étape, mais l'idée de cette plateforme-là, c'est qu'effectivement, elle puisse battre au rythme du contexte, qui peut être l'actualité ou l'actualité culturelle, l'actualité géopolitique ou autre, et qu'en même temps aussi, elle ait plusieurs rythmiques possibles, c'est-à-dire que vous puissiez être ensemble et aussi avoir le choix du moment où vous regardez les
choses. Merci beaucoup Bruno Patino. Vous reviendrez parce que Arte va fêter ses 30 ans cette année. C'est pas rien, vous avez déjà un programme pour les festivités?
Oui, c'est un programme qui va être très européen, mais bien sûr, c'est nos 30 ans.
Très européen, ben on reparlera de Napoléon Bonaparte. Merci beaucoup Bruno Patino d'être venu au micro de l'Instant M ce matin. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonette Villers. Alors je ne sais pas si Arte traitera de ce type de questions. En tout cas, ce matin, toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre médecin. Je vous laisse imaginer Sonette Villers. Voilà.
Donc ce qui va se passer au standard.
Voilà, donc vous pouvez appeler au standard au 01 45 24 7000.
Bonne émission.
Merci.